une histoire particulière. 13h30, heure désormais de notre rendez-vous documentaire du week-end en deux épisodes. Avez-vous fini de déjeuner ? Moi, pas encore. Je vous attendais car j'ai préparé pour vous un pain maison. Sel, farine, levure, avec un peu d'eau tiède. Ne pas oublier de faire un petit puits au centre de la farine. Après le mélange, il faut pétrir la pâte obtenue. C'est pour lui donner de l'élasticité. Puis viennent les étapes de pousse de la pâte, de façonnage et de cuisson. C'est l'étape que je préfère, car la cuisine s'emplit petit à petit d'une bonne odeur de pain. Vous sentez ? Ensuite, c'est la dégustation. Aujourd'hui, il faudra toutefois vous en méfier, comme vont vous le raconter Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier dans le premier épisode de Pain maudit à Pont-Saint-Esprit.
Dans les années 50, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui avait entendu parler de Pont-Saint-Esprit. Il y avait à peu près 4000 habitants, 3 médecins, une grande fête avec un marché. C'était très rural, principalement de la viticulture. Là, quand l'affaire se déclenche, on est en août et normalement c'est le moment où on travaille à préparer les vendanges. Le pont qui fait la gloire de Pont-Saint-Esprit, qui est supposé avoir été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui voulait pas de pont, a été bombardé par les Américains. Il est remplacé par un pont provisoire, donc la grande fierté de Pont-Saint-Esprit est absente. Donc on est dans des préparatifs des vendanges et de la fête du mois d'août, quand l'affaire commence.
Pain maudit à Pont-Saint-Esprit. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier. De l'ergot dans le pétrin.
Une génération a passé, la ville n'a pas oublié le 15 août 1951. Ce jour-là, la fête de la Vierge a pris l'allure d'une fête des fous. Un mistral de folie qui a fait vaciller les esprits, Pont-Saint-Esprit était en proie au délire.
Les premières intoxications signalées aux médecins, c'est le dimanche 12 août 1951.
Francis Zamponi.
Il y a une accumulation de personnes qui viennent voir le médecin en se plaignant de douleurs gastriques, de petits malaises. C'est pas des symptômes très graves et le docteur, celui qui est de garde, pense à une intoxication alimentaire au cours d'un repas et puis prescrit ce qu'on met d'habitude, des purges. Les habitants, je dis, c'est une France très rurale, prennent des tisanes parce que la grand-mère a le secret de la tisane quand on a ce genre de douleur. Donc ça passe à peu près inaperçu. Ça va devenir beaucoup plus virulent 4-5 jours plus tard. Et on arrive à une centaine de personnes. C'est une intoxication collective, ça devient grave. Mais les symptômes ne sont toujours pas très virulents. C'est des douleurs et on voit apparaître un phénomène qui est les insomnies. C'est un village où normalement, vers 10h du soir, tout le monde est couché. Et là, il y a des habitants qui n'arrivent pas à dormir, qui circulent dans la rue et qui parlent beaucoup, qui sont très volubiles et qui n'ont pas sommeil. On m'avait raconté l'histoire d'une dame qui fait de la couture et qui dit « Oh là là, j'ai passé ma nuit à coudre sans être fatigué, j'ai rattrapé tout mon retard et j'ai toute la couture qui traînait, je l'ai faite, c'est merveilleux. » Elle n'avait pas de douleur, simplement insomnie et sans le lendemain s'effondrer.
Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors, il est évident que quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne rime absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Mais j'étais cependant assez lucide pour ne pas vouloir sauter, ne pas faire de bêtises.
Donc ça commence à surprendre les médecins parce qu'ils sont en face de symptômes qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et ça va s'aggraver avec des hallucinations qui sont plutôt sympathiques. Et d'après les témoins, les personnes ont un sourire plutôt béat. Il y a celui qui croit écouter la radio en se servant de ses pieds comme antenne pour capter la radio, et il écoute de la musique. C'est en même temps inquiétant pour les médecins, mais c'est pas angoissant.
Mais je n'ai pas eu des hallucinations totales, comme d'autres l'ont eu. Ainsi, je peux très bien témoigner, ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche, elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux, elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Voilà, elle a eu vraiment ce qu'on peut appeler alors des hallucinations, comme d'autres. Les pontins, comme d'autres.
Mais vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle ?
Oh, rien du tout, monsieur.
Là où va commencer l'angoisse, c'est quand il y aura ce qui s'est appelé la nuit cataclysmique ou la nuit de la catastrophe, où tout d'un coup, là, on a une grande partie, une centaine de personnes qui sont prises d'hallucinations beaucoup plus graves et des animaux. Ça a commencé par des animaux, des personnes qui disent ben, « mes poules sont complètement folles, elles sautent partout ». Un chien qui attaque son maître alors que c'est un chien de chasse, très paisible. Et puis après, ça vient sur les habitants où on a des réactions. Alors, on n'est plus dans la rêverie et les fleurs qui bougent, on est dans les angoisses. J'ai le feu à l'intérieur, je brûle, je vais sauter dans le Rhône parce que je brûle. Des personnes qui se prennent pour des oiseaux qui sautent de la fenêtre en pensant voler. Ça dépasse le stade de l'amusement. On est dans une situation extrêmement tendue et angoissante.
C'était la fête de la motte du 15 août et on a fait le réveillon. Et le lendemain, on a tous été malades. On a commencé à avoir des vomissements, des coliques. Et puis après, on ne pouvait pas dormir. Et puis on se levait, on ne savait pas où on était. Enfin, on partait en vélo. Moi, je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres. Ils se sont tués. Et on était fada, c'est le cas de le dire.
Les médecins sont complètement perdus. Ils savent pas quoi donner. Les barbituriques qui prescrivent, eh ben, ça n'empêche pas les gens de rester éveillés, ça supprime pas les hallucinations. Et le village est pas prêt du tout à réagir à une pareille situation. Il y a un hôpital, l'Hôtel Dieu, mais qui est en fait plus une maison de retraite tenue par des religieuses avec une grande cornette blanche, et qui sont complètement dépassées parce qu'elles ont l'habitude de s'occuper des personnes âgées et pas de délirants violents. Alors on va faire appel à des ouvriers, ceux de la verrerie par exemple, qui sont costauds. Il y en a qui travaillent à la construction du barrage de Mondragon sur le Rhône. On leur demande de venir parce qu'ils servent d'infirmiers psychiatriques. Les soins, c'est principalement d'attacher les personnes qui hurlent, qui se débattent, qui veulent sauter par les fenêtres. Alors, parallèlement, on a aussi ceux qui sont plus calmes. Monsieur qui est dans sa chambre et qui compte inlassablement les petits carreaux de sa fenêtre. Et il refait le compte à chaque fois et il continue comme ça.
Qu'est-ce que vous ressentiez comme symptôme ?
Ah, ben vous savez, au point de vue symptômes, vous savez, c'était terrible. Hein. Terrible, 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 oui. Surtout les hallucinations, le feu. Des objets qu'on dit des serpents, vous voyez. Mais le plus atroce, c'était le rétrécissement, comme si j'étais dans une presse, vous voyez.
Il y a un désarroi complet, et l'autorité, le maire, se heurte, quand il appelle la préfecture, à une espèce d'incrédulité. Il demande qu'on lui envoie des ambulances avec des infirmiers psychiatriques pour interner les personnes délirantes. Et on lui répond, non, pour interner quelqu'un administrativement, il faut une procédure, il faut que vous ayez un rapport du médecin, une demande de la famille, il faut envoyer un dossier individuel par personne. Vous voyez, quand on est submergé par une centaine de délirants comme ça, le maire est assez furieux, mais et finalement il téléphone, parce que le préfet est pas là, il est en vacances, c'est son directeur de cabinet. Le maire réussit à avoir quelqu'un au ministère de la Santé qui donne instruction de dire bon, laissez tomber les procédures d'internement administratives, emmenez tous les gens qui en ont besoin à l'hôpital. Et là, enfin, arrivent des ambulances, dont une partie des ambulances militaires, avec des infirmiers et des camisoles de force, parce que il n'y a pas d'autre moyen. Il faut des fois 3-4 personnes pour maîtriser quelqu'un. Et c'est le moment où l'affaire sort des limites de Pour cet esprit et va devenir nationale.
La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu.
Steven Kaplan, après la Seconde Guerre mondiale, on parle de bataille du pain en France.
Écoutez, la France sort de la guerre meurtrie, une grande dévastation, notamment dans le sud, autour justement de la région qui nous intéresse. Le pain est redevenu la denrée de première nécessité. Tout le monde en dépendait. C'était la source de calories de 90% de la population. Ça voulait dire qu'il fallait une politique de ravitaillement dans un contexte général de pénurie. La France était jusqu'à 1953-54 dans une disette prolongée. Les deux rêve des Français, c'était se débarrasser des Allemands et retrouver le pain blanc. Eh ben, ils se sont débarrassés des Allemands relativement rapidement, mais ils ont mangé un très mauvais pain jusqu'au milieu des années 50. Donc une situation très précaire, une grande angoisse de la part du gouvernement juste de trouver de quoi nourrir les Français. Le système était très simple à l'époque. La récolte était rachetée par l'État. L'État mettait la récolte dans les OS, les organismes stockeurs, des coopératives agricoles et autres négociants. Les meuniers, qui à l'époque étaient presque 9000, aujourd'hui ils sont 400, 9000 meuniers étaient eux affectés à des fournisseurs, et les 54 000 boulangers de l'époque étaient affectés d'office à des meuniers. Ils n'avaient pas le choix de leurs meuniers. Les boulangers ne savaient même pas qui étaient les meuniers qui les fournissaient.
De son bureau du Palais de l'Élysée, M. Vincent Auriol, président de la République et président d'honneur du Comité national de la collecte du blé, vous parle.
C'est en ma qualité de président d'honneur du Comité national du pain que je m'adresse à vous, agriculteurs de France. Je m'adresse à votre cœur et à votre raison. Je le fais simplement, familièrement, un ami qui est né et qui a grandi dans une famille de paysans, un ami qui connaît votre dur labeur quotidien, qui n'ignore pas les risques de votre profession soumise aux aléas de la nature et souvent, hélas, au souffle funeste de la spéculation. Je viens vous demander de livrer sans retard votre blé, tout votre blé. Vous vous étonnez sans doute de ce brusque et pressant appel, alors que votre récolte a été cette année meilleure que l'an dernier, et vous en cherchez les raisons. Examinons donc les faits et réfléchissons. Oui, tout semblait bien parti. Oui, la récolte était bonne, meilleure que l'an dernier, c'est vrai. Mais l'an dernier, vous le savez, la France, pour vivre, avait dû importer pour elle-même 23 millions de quintaux. Oui, jusqu'en février, la cadence de vos livraisons était encourageante. Mais il y a eu les gelées et nous avons dû importer du blé de semence au lieu de blé panifiable. Il nous faut, dans l'immédiat, pour faire la soudure, 3 millions de quintaux, et c'est pourquoi je vous dis, livrez sans retard votre blé, tout votre blé.
L'affaire du pain maudit vient d'éclater. 7 morts, 250 intoxiqués. Toutes les victimes ont mangé du pain provenant de chez un boulanger de la Grande Rue, M. Briand, qu'un médecin, le docteur Vieux, avait pourtant mis en garde.
C'est le dimanche matin, vers les 11 heures, que je suis allé à la boulangerie. M. Briand était absent et j'ai dit à sa fille qui servait, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Et elle m'a répondu, vous n'êtes pas le premier à me le dire, évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal.
On n'a pas d'exemple, les médecins n'ont pas jamais traité ce genre de cas, et même quand on va faire appel à des médecins, professeurs de médecine de la faculté de Montpellier,
Francis Zamponi,
ils vont hésiter. Et le seul exemple que trouve un professeur de médecine qui est en vacances en Ardèche, qui lit le journal, qui voit cette affaire, il vient à Pont-Saint-Esprit, et lui se souvient de ce qu'on appelait le mal des ardents au Moyen-Âge. Et il dit que ça ressemble beaucoup à, on appelle l'ergotisme, qui était des épidémies alors courantes au Moyen-Âge, dues au développement sur le seigle de champignons. Et ces champignons provoquaient des hallucinations et de la gangrène. Et on trouve effectivement sur une dame qui s'est jetée d'une fenêtre et qui a une fracture, on voit que son pied commence à être gangréné. Donc ça, c'est des éléments de symptômes qui rappellent cette maladie. Alors, elle est médiévale, mais on en a eu des résurgences en Russie au 19e, 20e siècle. C'est pas disparu. Parce que la cause existe toujours la même, c'est ces champignons qui se développent sur le seigle.
L'ergot de seigle, regard sur la science, Max Goiffron, 1975. L'ergot de seigle, c'est un champignon au sens botanique et c'est un parasite du seigle, bien sûr, mais en fait un parasite de toutes les graminées.
C'est un tout petit champignon, il est visible à l'œil nu quand même.
Ah, il est visible à l'œil nu, il a la forme d'une sorte de gros grain de blé, légèrement incurvé, mais au lieu d'être blond, jaune, il est brun sombre. Et un seigle ou un blé qui est ergoté se reconnaît au premier coup d'œil.
Donc on reconnaît aisément les céréales parasitées.
Ah oui, c'est parfaitement visible.
Elles ne sont pas consommables, j'imagine.
Ah non, c'est très dangereux. Et ces effets sont connus depuis très très longtemps. L'ergotisme, c'était le feu Saint-Antoine du Moyen-Âge. Le feu Saint-Antoine, à cause des douleurs que l'intoxiqué ressentait. L'intoxication par l'ergot provoque effectivement une sorte de gangrène et des mutilations. Et ces mutilations peuvent se faire par racornissement des extrémités qui se dessèchent et tombent, ou au contraire par, en somme, nécrose et mortification. À ce moment-là, c'est un aspect un petit peu humide.
Alors c'est un processus qui dure un certain temps.
C'est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs mois. Il y a eu des épidémies effroyables, en Sologne notamment. Mais l'ergotisme, on peut dire, est une maladie qui a pratiquement disparu. Au point que l'expression du feu Saint-Antoine, qu'on trouve dans Rabelais, n'oublions pas que Rabelais était médecin, et bien actuellement elle est attribuée par les médecins aux douleurs du zona. Or si on se rapporte à Rabelais, et notamment au chapitre des torches-culs, où il fait parler Gargantua, et bien Gargantua invective à un moment donné un bijoutier et une demoiselle qui portaient des boucles d'oreilles avec lesquelles il s'était torché, avec lesquelles il s'était écorché, et Gargantua disait « Le feu Saint-Antoine arde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les porta. » La médecine a fait de grands progrès, mais on n'a pas encore décrit de zona du boyau culier, ou si vous voulez, du rectum. Donc, le feu Saint-Antoine, eh bien l'ergotisme, représente bien ces douleurs fulgurantes, ces douleurs en éclair, qu'on observait soit au niveau de ce boyau culier, mais également au niveau des extrémités des membres qui étaient atteintes par cette gangrène dont je vous ai parlé. Actuellement, l'ergotisme, on peut considérer que c'est une maladie du passé.
En quelques jours, 7 morts et 300 cas de démence qui éclatent de par la ville, comme si une malédiction s'abattait sur la cité. On découvrira vite l'origine du mal. Le poison est sorti des mains du boulanger Briand. Toutes les victimes avaient mangé de son pain.
Je crois que ça prend une envergure nationale assez rapidement. Le moment clé, c'est quand les médecins se mettent d'accord, que la cause de cette intoxication alimentaire, c'était le pain. Et c'était le pain venant d'une boutique. Il y avait un consensus général de la part des experts, mais ça va être encore un des aspects de cette affaire-là. On ne ferme pas tout de suite la boutique de Roquebrion. On ne met pas tout de suite sous soleil la boutique de Roquebrion. Donc, Brion allait avoir, pour les uns, le temps de cacher les traces de ses méfaits. Mais bon, dès qu'on dit pain, comme disait le maire Hébrard, le pain, c'est pas la mort. Le pain, c'est la vie. C'est pas acceptable que le pain tue. C'est pas possible que le pain tue.
Où étaient les responsabilités? Chez le boulanger Briand ou chez son fournisseur de farine?
Donc toutes les boulangeries sont fermées, ce qui fait que la ville de Pont-Saint-Esprit, qui ignorait à peu près ce qu'étaient les biscottes, se retrouve avec des rayons chargés de biscottes qu'on fait venir de partout. Plus question de manger du pain.
Donc on procède à des analyses toxicologiques, Francis Zamponi, assez vite?
Alors, un des problèmes, c'est que ça va être le plus grand désordre. Parce qu'il n'y a pas la certitude du prélèvement. Est-ce que c'est bien cette farine-là qui, ce jour-là, a fait cette fournée? Parce que c'est vraiment un jour précis. Ça n'a pas été fait suivant les règles de la police scientifique d'aujourd'hui. Donc, on va avoir des analyses contradictoires. Les premiers prélèvements sont envoyés au laboratoire de toxicologie de police de Marseille. Et le responsable du laboratoire, dans son rapport, dit que sur 100 examens, 90 montrent la présence de l'alcaloïde issu de l'ergot de seigle. Donc là, ça paraît clair, c'est bien de l'ergot de seigle. L'organisme, alors il faut dire, à l'époque, la distribution de la farine est gérée par l'État. On est au sortir de la guerre, il y a eu des mauvaises récoltes dans certaines régions. Donc l'État gère pour pas qu'il y ait des départements qui soient favorisés par rapport à d'autres. Donc c'est un organisme officiel qui gère la distribution de la farine. Et cet organisme demande une autre expertise à un laboratoire de toxicologie militaire. Et ce laboratoire ne trouve pas, lui, de traces d'alcaloïdes d'ergot de seigle. Alors, ce dont on n'est pas sûr, c'est qu'ils aient eu les bons échantillons, parce que s'ils ont eu de la farine d'un autre sac, eh bien, il n'y a aucune raison, et du pain d'un autre sac. Ou est-ce que c'est parce que les conclusions allant vers l'ergot de seigle déplaisait, parce que ça mettait en cause le système de distribution de la farine fait par l'État, là, pas de réponse. Mais on a deux analyses toxicologiques complètement divergentes.
Comment arrive-t-on finalement à l'incarcération d'un meunier, hein, Poitevin? Qu'est-ce qu'on lui reproche, Francis Zamponi?
Alors, l'enquête judiciaire, d'un côté l'aspect médical, scientifique, et de l'autre côté l'enquête judiciaire, qui a été ouverte avec réticence, mais retire les investigations à la gendarmerie et la confie à la police judiciaire de Montpellier. Le commissaire est assez mal noté, dit-on, parce qu'il est, il traîne. Alors là, on lui dit, il faut aller vite. Il y a la presse qui attend et votre carrière qui en dépend. Donc il va vite, il interroge le boulanger, à qui est-ce qui vous a amené la farine? C'est le répartiteur de farine du département. Il va chez le répartiteur, quels sont les meuniers qui vous ont fourni la farine? On lui en donne un certain nombre. Et il tombe sur un meunier dont le moulin est assez sale. Le meunier dit que, eh ben, des fois, on balaye un peu le grenier, et qu'il peut y avoir des grains qui soient du seigle. La police en conclut, ben, c'est clair. Le meunier a tout mélangé. Et donc, c'est lui qui est responsable. La police médiatise beaucoup cette arrestation. Se fait photographier avec le meunier qui a les menottes. Évidemment, ce meunier a une tête chafouine, rusée. On sent l'assassin par intérêt. C'est pas un accident, c'est l'avarice qui est la cause de ça. Ce personnage a voulu gagner un peu d'argent et il a mis en danger la vie de centaines de personnes. Donc il arrive à Nîmes, on l'amène sous protection policière, sinon il aurait été lynché assez vite. C'est le coupable et la police fait un communiqué disant voilà, l'affaire est réglée. Et c'est lui le coupable.
Le passage de ces corbillards devant une boulangerie close, c'est ce que la justice reprochera à un minotier qui avait trop aimé l'argent.
Le problème, c'est que ce responsable, judiciairement, ça ne va pas tenir parce qu'on n'a aucun élément matériel. C'est impossible d'avoir une relation de cause à effet. Donc la piste retombe et le meunier est libéré. Alors, ce qui va faire un grand choc pour cet esprit, c'est quand il retourne dans son village, ses confrères, les meuniers, font un grand banquet d'accueil à l'innocent et disent « on va manger du pain fait avec ta farine pour montrer que plus on est de fous, plus on rit ». Pour les habitants de Pont-Saint-Esprit qui ont leur famille en hôpital psychiatrique, ça passe mal. La presse raconte ça, donc ça remonte la tension dans le village. Et puis, ils ont l'impression d'être la risée de toute la France. C'est le village des fous.
Le ministère public...
Stephen Kaplan.
C'est-à-dire la chancellerie, veut mettre fin à cette affaire-là, fait pression sur le procureur Room. Et il y avait tout au début une lettre qui est arrivée de la Suède de la part d'un médecin qui a dit « J'ai lu Paris Match et j'ai vu cette histoire horrible, sans m'en rappel, des accidents de travail ici en Suède avec un produit qui s'appelle Panogène, c'était à la base de mercure. Et il y a des similarités dans le tableau clinique. Selon ce que j'ai lu, disait-il, dans Paris Match, c'est pas vraiment un modèle d'analyse clinique médicale, mais peu importe. Et cette lettre, on avait jeté ça complètement. Et puis, deux ans, trois ans plus tard, quand ils sont vraiment au désespoir et ils veulent y mettre fin à cette enquête-là, on ressort cette hypothèse Panogène. On se rend compte qu'il y avait une boîte très importante en France qui importait la Panogène, que le Panogène était utilisé dans l'agriculture en France. On envoie une commission rogatoire de policiers français en Suède, où un magistrat convoque les gens qui étaient chargés donc de sa fabrication. Le chef de ce groupe-là refuse de répondre, plus ou moins. Des médecins, en revanche, eux, y répondent. Et ils mentent de façon catégorique que le tableau à mercure n'a rien à voir avec le tableau de Pont-Saint-Esprit. Et malgré la façon catégorique de ces experts suédois, les policiers reviennent, ils donnent les informations à Room, et Room fait une déclaration disant « c'était le Panogène ». Comme par magique, le ministre de la Justice ordonne la fin de l'enquête de façon péremptoire. On pourrait dire c'est le lobby des meuniers, sans doute en partie cela, mais l'intérêt du lobby des meuniers était le même intérêt que l'État, c'est-à-dire protéger le pain, garantir le pain, ne pas mettre en question le pain. Et l'État va sauver le pain.
Après 9 ans de procès, les victimes n'espèrent plus obtenir justice. Certains, comme M. Delacquis, reprochent à l'instruction certaines lacunes. Le boulanger Briand vend toujours du pain, mais il a refusé de nous parler. Les victimes sont presque toutes sur pied. La vie a repris à Pont-Saint-Esprit, où l'on n'achète plus tellement de biscottes.
C'était la première partie de Pain maudit à Pont-Saint-Esprit. Avec Francis Zamponi, Stephen Kaplan, Archie Vina, Manuela Debussy. Prise de son, Célia Dufour. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.
Oui, c'est fin de la première partie, mais une histoire particulière continue, demain à 13h30, avec la suite de l'histoire du pain maudit.